Citation. L'épreuve continue et elle se fait chaque jour plus douloureusement sentir. Très régulièrement, nous croyants sommes éprouvés. Peut-être que c'est ton cas en ce moment. Peut-être que tes épreuves sont nombreuses. Peut-être qu'elles durent depuis longtemps. C'est notre 14e année dans l'Église et il y a des membres de l'Église qui ont aujourd'hui les mêmes épreuves qu'ils avaient il y a 14 ans. Les mêmes sujets de prière par rapport à telle ou telle relation douloureuse ou difficulté de santé. Et cela nous affecte en tant qu'Église. Lorsqu'une partie du corps du Christ souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Nous sommes obligés d'attendre la délivrance. Et il y a toutes sortes d'épreuves. Plusieurs croyants que je connais ont exprimé cette semaine leur frustration face au confinement. Ils attendent la délivrance. Pire, nous avons des frères et sœurs de par le monde qui sont persécutés physiquement à cause de leur attachement à Jésus-Christ. Mais parfois, la délivrance arrive. Une sœur nous a dit l'autre jour, après plusieurs mois de traitement pour une maladie, « Je suis guérie ». Ou un problème de logement est résolu. J'ai des exemples en tête pour notre Église. Ou un conflit se résout parce que quelqu'un se repent et demande pardon. Je pense à un exemple récent en dehors de cette Église et cela a réjoui le cœur de plusieurs. Ou encore, un croyant, et j'ai des exemples en tête en dehors de cette Église, un croyant pas très stable, pour lequel on prie et dont on n'a pas de nouvelles. Et puis, plus tard, on découvre qu'il demeure ferme dans la foi et même mûrit bien. Et on a envie de dire avec l'apôtre Paul, « Oh, maintenant je vis !» C'est un petit exemple, mais je suis passé récemment par 3 semaines d'épreuves d'ordre informatique. Sans ordinateur, c'était difficile d'assumer mes responsabilités. Mais j'ai connu la délivrance. Quelle que soit la taille, la durée, la nature des épreuves que nous connaissons, quelles que soient les épreuves que nous connaîtrons, le psaume 33 va nous équiper pour que nous attendions la délivrance avec joie. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole puissante et bienveillante. Et nous te louons de ce qu'elle est à l'œuvre en nous qui croyons. Mais nous ne voudrions pas nous tromper en écoutant ta parole sans la mettre en pratique. Agis donc en nous par la puissance du Saint-Esprit pour nous rendre davantage conformes à l'image de ton Fils et surtout dans ce domaine qu'est la joie. Cela nous te demandons pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Il est possible d'être attristé et joyeux en même temps, nous dit l'apôtre Paul. Vous qui étudiez 1 Pierre le jeudi soir, vous savez qu'on peut être simultanément éprouvé et dans la joie. Être dans la joie, c'est l'exhortation de ce psaume. Dans les 3 premiers versets, l'appel à nous réjouir en Dieu est clair. Cela devrait être normal même. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Ce verset reprend le dernier verset du psaume précédent, du psaume 32. Et je mentionne cela simplement pour que nous puissions comprendre qui sont les justes du verset premier de notre psaume 33. Parce qu'on pourrait penser, n'est-ce pas, que les justes sont Steve, Samuel, Benjamin et quelques autres membres de l'Église qui sont particulièrement mûrs. Mais en fait, les justes, au regard du psaume précédent, sont les croyants, les personnes dont les péchés ont été pardonnés. Certes, la barre est placée haut ce matin, la joie au milieu des épreuves. Mais nous ne pouvons pas nous soustraire à cette injonction, nous qui sommes croyants. Et cette joie est censée donner lieu à la louange exprimée par le chant, versets 2 et 3. Si tu n'as pas envie de chanter ce matin, et que tu es quand même croyant ou croyante en Jésus-Christ, ma prière, c'est que tu te laisses persuader par ce psaume 33 qu'il faudrait quand même chanter les louanges de Dieu. Mais je ne suis pas en train de nier la réalité des épreuves. Et justement, à la fin du psaume, la thématique de la joie en Dieu revient, certes, mais l'accent tombe sur l'idée d'attendre Dieu, d'attendre sa délivrance ou d'espérer en lui. Verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté ou attendent sa bonté. Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel ou attend l'Éternel. Verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi ou nous t'attendons. Et donc la question se pose, comment faire preuve de joie en attendant la délivrance? Et la réponse brève que donne ce psaume, c'est parce que Dieu est puissant et bienveillant. Concrètement, où est-ce qu'on peut discerner la puissance de Dieu et la bienveillance de Dieu? En trois endroits. D'abord, dans sa parole, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Il ne faudrait pas faire le clivage entre la parole puissante et bienveillante que sont les Écritures et la parole puissante par laquelle Dieu a créé ce monde. En fait, le monde créé par la puissance de Dieu est rempli de la bienveillance de Dieu. Je ne suis pas sans doute le seul homme dans notre Église à être excessivement focalisé sur les tâches. De temps à autre, mon épouse Myriam attire notre attention sur le mouvement d'un oiseau, la forme d'une feuille, une belle perspective, ces changements extraordinaires dans la nature qui se développent sous nos yeux au printemps. Si nous avons la possibilité de faire une balade dans un parc durant cette période de confinement, laissons-nous émerveiller par la bienveillance de Dieu qui remplit la terre et par la puissance créatrice de Dieu. Je ne sais pas si vous visionnez les méditations bibliques du jour, mais dans celles portant sur ce psaume, Benjamin a attiré notre attention sur les versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quelle parole puissante! Quel contraste avec les paroles même des personnes les plus puissantes sur Terre en 2020. On pense aux dirigeants des grandes nations. Des paroles puissantes, bienveillantes? Souvent, c'est le contraire, n'est-ce pas? Des paroles qui créent à partir de rien? Nos dirigeants auraient bien souhaité faire apparaître du matériel de protection médicale en un claquement de doigts. J'imagine que beaucoup de personnes dans l'Église ont confectionné récemment des masques, et c'est super. Mais ne confondons pas cela avec le verset 6, et le verset 9. Une parole et cela vient à l'existence. La réaction normale face à la création se trouve dans le verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Nous savons grâce à Romains 1 que ce monde créé par Dieu permet à chaque être humain de reconnaître que Dieu existe et qu'il est puissant. Cette création devrait même amener chaque être humain à glorifier Dieu, à rendre grâce à Dieu, à trembler devant lui. Nous savons que dans la pratique, ce n'est pas ainsi que la plupart des êtres humains réagissent face à la création. Mais qu'en est-il de nous? La prochaine fois où tu seras frappé par l'immensité de cette planète en allant sur Google Earth, par la beauté d'une fleur, par la majesté d'un coucher du soleil, pourquoi ne pas cultiver ta joie en Dieu? Une joie dans sa parole puissante et bienveillante, une joie qui transcende nos épreuves. Une telle joie n'est pas concevable pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Face aux épreuves, les personnes qui rejettent Dieu risquent de se morfondre dans la peine. Nous avons vu cela durant cette période de crise que nous vivons. Une Américaine que je connais, qui est professeure d'université, a commenté l'autre jour, « Parfois la vie est nulle. » Nous ne serons pas comme cela. Nous serons dans la joie, puisque cette joie a pour objet Dieu lui-même. Mais ces derniers temps, même les personnes qui ne veulent pas avoir affaire à Dieu ont dû faire face à leur impuissance. Considérons en effet le deuxième endroit où la puissance et la bienveillance de Dieu se manifestent, ses projets. On a entendu le président français Emmanuel Macron le marteler avant-hier, n'est-ce pas? Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et dans un autre discours durant cette période, beaucoup de certitudes, de convictions seront balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. On parle d'une nouvelle normalité qui doit être mise en place dans nos sociétés. Qui est-ce qui, parmi les dirigeants du monde, avait prévu cela? Est-ce que c'était dans les projets des présidents et des premiers ministres d'orchestrer une récession économique mondiale en 2020? Bien sûr que non. Mais, verset 10, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Oh, je ne dis pas que les projets des dirigeants de ce monde ne se réalisent jamais. Mais notons bien la différence. Les êtres humains ont des projets, il se peut qu'ils se réalisent. Dieu a des projets, ils se réalisent à coup sûr. Les êtres humains ont des projets, ils se réalisent uniquement si Dieu le veut. Dieu est parfaitement aux commandes. Verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et la réaction que cela devrait inspirer chez nous, vous voyez verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. C'était vrai des Israélites à l'époque où ce psaume a été rédigé, et c'est vrai pour nous, membres du peuple de Dieu aujourd'hui. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Le fait d'être choisi pour faire partie du peuple de Dieu, quel privilège immense! L'an dernier, notre fille Clara a été choisie par une amie de classe à passer une journée dans un parc d'attractions aux Pays-Bas. C'était l'occasion de l'anniversaire de cette amie. Quel sentiment de privilège chez Clara! Quelle joie pour elle! Elle en parle encore aujourd'hui! À combien plus forte raison sommes-nous des privilégiés, nous choisis selon le dessein bienveillant de Dieu. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, mais moi je vous ai choisi. Nous étions des ennemis vis-à-vis de Dieu, nous étions morts, aveugles, sourds, esclaves, dit la parole, mais Dieu nous a choisis par sa puissance, par sa bienveillance. Sommes-nous conscients de cette réalité? Que nous sommes heureux, c'est une raison d'être dans la joie en Dieu. La prochaine fois où tu seras en train de t'adresser à ton bon Père Céleste dans la prière, pourquoi ne pas cultiver ta joie en Dieu, une joie dans ses projets puissants et bienveillants, une joie qui transcende nos épreuves. Si vous ne faites pas encore partie du peuple de Dieu, voici ce que Dieu vous dit dans sa parole. Soyez avertis, parce que cela fait partie aussi de ses projets d'orchestrer la fin de ce monde et de mettre en place un moment de jugement. Et c'est une condamnation à perpétuité qui vous attend du fait de votre rébellion contre lui. Mais si vous cessez votre rébellion, si vous vous tournez vers Dieu dans une attitude de soumission, il vous accueillera. Il le fera parce que la condamnation a été assumée par son Fils Jésus-Christ lorsqu'il est mort il y a 2000 ans. Oui, j'avais bien dit que les projets de Dieu sont puissants et bienveillants. Et cela jusque dans les moindres détails. Considérez le dernier domaine, sa providence, sa connaissance de tout, son intervention dans ce monde, notamment en faveur de ses enfants. Cette partie parle beaucoup du regard de Dieu. On comprend que Dieu est esprit et n'a pas littéralement des yeux. Lorsque, par exemple, nous lisons dans l'expression du verset 18, l'œil de l'Éternel, nous comprenons que c'est une figure de style. Cela parle du fait qu'il sait, qu'il comprend et parfois même qu'il agit. Mais nous devons distinguer ce qui est vrai par rapport aux êtres humains en général et ce qui est vrai par rapport aux croyants en particulier. D'un côté, en ce qui concerne chaque être humain, voici verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Jusqu'à il y a quelques jours, Emmanuel André était le porte-parole interfédéral de la lutte contre le COVID-19. C'est la personne qui donnait des conférences de presse jour après jour pour annoncer le nombre de décès, etc. Et durant ces moments, nous, téléspectateurs, nous écoutions les paroles d'Emmanuel André et nous voyons partiellement ses gestes. En revanche, Dieu voyait complètement, totalement, et jusque dans le cœur d'Emmanuel André, cœur que lui, Dieu, a formé. Verset 15. Il le voyait même dans les parties de la journée où il n'était pas à la télé. Même chose pour ses collègues. Et pour toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement belge. Et aussi pour toutes les personnes qui travaillent en Belgique tout court. Et aussi pour toutes les personnes tout court en Belgique. Et aussi pour les 7 et 8 milliards d'autres habitants de la Terre. Et donc, il est en bonne posture pour juger l'humanité. Mais cela veut dire aussi qu'il connaît chaque détail des épreuves par lesquelles tu passes. Et justement, notons le regard particulier que Dieu a vis-à-vis de ses enfants. Verset 18, vis-à-vis de ceux qui le craignent, vis-à-vis de ceux qui attendent sa bonté. Vous et moi, toi et moi. Et là, ce qui se dégage, c'est son action en notre faveur, ses actes de délivrance. Oh, que nous puissions le saisir parce que le psaume nous le rappelle. Ce n'est pas d'un autre endroit que vient la délivrance. Quelle que soit la taille, la durée, la nature de l'épreuve, sachons que Dieu a le regard sur nous. Car la tentation nous guette, n'est-ce pas, de faire comme les gens du monde, de nous tourner vers d'autres sources de secours. Mais la réalité, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mais qu'est-ce qu'on a entendu autour de nous face à la menace qu'est le COVID-19? Moi, j'ai entendu le prince Charles exprimer sa confiance dans le public britannique. J'ai entendu un sociologue cette semaine affirmer sa confiance dans la communauté scientifique. J'ai entendu un journaliste exprimer l'optimisme face à la possibilité d'un vaccin donc qui pourrait être disponible avant fin septembre. J'ai entendu une remarque du genre « Oh, si seulement on avait le leadership qu'on avait durant la Seconde Guerre mondiale !» Mais si vaccin il y a, si leadership il y a, ça provient de Dieu. Où est-ce que nous allons nous tourner face à nos épreuves? Est-ce que nous nous rendons compte de ce que le regard de Dieu est bienveillant à notre égard, le regard du Dieu puissant pour opérer la délivrance? Verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui attendent sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et lorsque la délivrance arrive, nous louons Dieu. Mais il faudrait faire attention. Parce que nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu de la même manière qu'à l'époque où ce psaume a été écrit. La vie des Israélites était régie par un certain pacte, une certaine alliance, l'ancienne alliance. Selon cette alliance, la fidélité des Israélites donnait normalement lieu à des bénédictions concrètes, matérielles, physiques, y compris la délivrance face à toutes sortes d'épreuves. Pour nous, régis par la nouvelle alliance, ce n'est pas pareil. Nous jouissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes du fait d'être en Christ. La délivrance face aux épreuves vient souvent pour nous qui nous attendons à Dieu, mais pas toujours ça n'est pas promis. Au début de la prédication, j'ai lu une citation. L'épreuve continue et elle se fait chaque jour plus douloureusement sentir. Cette citation se poursuit. Je suis assuré que Dieu poursuit l'accomplissement de ses desseins en nous imposant cette attente prolongée. Il enverra le secours si nous savons l'attendre. Moi, je réagis à cela. D'abord en remerciant Dieu pour l'exemple de la personne en question, se croyant décédé maintenant, a bien mis en pratique ce psaume. Il était connu pour sa joie en Dieu face aux épreuves. Mais je réagis également en disant que lorsqu'il déclare que Dieu enverra le secours, ce n'est pas toujours vrai. Relisons le verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et pour nous, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui est promis? Il est vrai que Dieu promet de combler nos besoins, Philippiens 4, 19. Mais ce qui est promis pour nous est plus grandiose encore. La vie éternelle, la délivrance face à la mort pour toujours, une délivrance garantie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc oui, ultimement, Dieu enverra le secours. La délivrance la plus glorieuse qui soit, la délivrance qui est d'un ordre de grandeur plus vaste que toute autre délivrance, la délivrance face au péché et aux conséquences de nos péchés, la délivrance face à la mort et à l'enfer, cette délivrance est assurée. Lorsque nous fixons les yeux sur la croix du calvaire, nous pouvons nous délecter de cette réalité. Le regard de Dieu est bienveillant à notre égard. Le regard du Dieu puissant pour opérer la délivrance éternelle. Et cela fait que nous pouvons comprendre que les chrétiens à Thessalonique ont été dans la joie au milieu de beaucoup d'afflictions. Nous pouvons comprendre que les destinataires de la première lettre de Pierre étaient éprouvés et dans la joie. Nous pouvons nous-mêmes être dans la joie, même s'il n'y a pas de délivrance de notre vivant. Cette question a été posée à des croyants en Iran. Vous êtes exposés chaque jour au danger, mais voici chez vous tant de joie et de rire. Expliquez-moi pourquoi vous êtes si joyeux. Réponse de l'un d'entre eux. Lorsque je servais Allah, j'étais prêt à donner ma vie pour Allah, qui était un Dieu distant, peu rempli d'amour, violent. À combien plus forte raison devrais-je être prête à donner ma vie pour Jéhovah, l'Éternel, le Dieu de la Bible, qui est plein d'amour et intime? Et un écrivain chrétien de commentaire ainsi, le plus grand malentendu de l'Église américaine, nous pouvons ajouter européenne aussi, c'est que lorsqu'on vient faire connaissance avec les gens dans les nations où la liberté est restreinte, on pense qui vont être vraiment déprimés à cause de la persécution. Et lorsqu'on s'assied avec eux, ils sont tellement joyeux et ravis, et ça se voit sur le visage des uns et des autres lorsqu'ils sont en train d'adorer Dieu, qu'ils ne sont absolument pas déprimés. Fin de citation. Nous n'avons pas actuellement la possibilité de prendre le repas du Seigneur. Mais nous pouvons quand même méditer sur la croix. Pourquoi ne pas méditer sur le pardon des péchés? En prenant un texte, le psaume qui précède celui-ci serait un exemple phare. Et normalement, vous allez trouver dans les ressources en bas une méditation sur ce psaume 32. Pourquoi ne pas cultiver ta joie en Dieu, une joie dans le regard bienveillant à notre égard du Dieu puissant, une joie qui transcende nos épreuves. Je peux vous dire ce que ce psaume changera dans ma vie. Attendre Dieu, je le fais déjà. Je me tourne vers lui face aux épreuves. Prier dans le sens du dernier verset, je le fais. Éternel, que ta grâce soit sur nous. Mais attendre Dieu avec joie, lorsque je n'avais pas un ordinateur qui fonctionnait. Eh bien, il y a un commandement dans Jacques 1 concernant la joie face aux épreuves, et je l'ai mis en pratique par moments, mais pas suffisamment souvent. Et c'était une lutte. Et avec le recul, ce dont j'avais besoin pour que je sois armé dans cette lutte, c'est le psaume 33. Tu es peut-être dans le deuil et tu attends le réconfort. Tu es peut-être impliqué dans un conflit et tu attends la délivrance. Tu es peut-être malade et tu attends la guérison. Nous nous tournons vers celui qui est notre secours et notre bouclier. Verset 20. Nous prions le verset 22. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Suprêmement, cela veut dire que nous prions. Viens, Seigneur Jésus, parce que suprêmement, nous attendons le retour du Fils de Dieu qui nous délivre de la colère à venir. Et que nous connaissions une délivrance dans un avenir proche, ou que nous devions attendre notre mort ou le retour de Jésus-Christ. Nous attendons avec joie. Parce que nous le voyons, dans sa parole, dans ses projets, dans sa providence, Dieu est puissant et bienveillant. Quel Dieu nous avons! Tes œuvres sont grandes et admirables au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ta bienveillance vaut mieux que la vie. Juste, réjouissons-nous.